Le journal qui vous est présenté par Antoine Denecher. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À la une de l'actualité de ce dimanche 3 juillet, la cérémonie d'hommage national qui aura lieu jeudi aux Invalides.
Elle sera présidée par François Hollande après la mort hier de Michel Rocard. Que reste-t-il de la deuxième gauche qu'il avait théorisée ? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Chevènement, chantre de la première gauche. Il estime qu'aujourd'hui, au PS, ce sont les idées rocardiennes qui ont gagné. Et puis Frédéric Seyss nous expliquera pourquoi Michel Rocard fustigeait le système médiatique. Non, sans certaines contradictions. Jusqu'à 20h sur France Culture, c'est une émission spéciale consacrée au décès de Michel Rocard avec Raphaël Bourgois, Frédéric Martel et de très nombreux invités. À New York, c'est l'un des plus célèbres passeurs de la mémoire de la Shoah qui s'est éteint hier. Elie Wiesel, avec 87 ans, l'écrivain Marek Alter, lui rendra hommage dans ce journal. Nous irons également en Irak où l'organisation État islamique revendique un attentat qui a fait au moins 119 morts hier soir à Bagdad. Puis la chronique économique de Valérie Segond dans 10 minutes. Au Japon, le plus grand fonds de pension du monde vient de perdre 45 milliards d'euros. François Hollande annonce donc qu'il présidera jeudi à midi aux Invalides une cérémonie d'hommage national à Michel Rocard. L'ancien Premier ministre est décédé hier soir à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer. Par ailleurs, selon les propres volontés de Michel Rocard, il y aura aussi une cérémonie au temple protestant et une autour du 11 juillet au siège du Parti Socialiste. Car le PS, en effet, c'était sa famille depuis 1974. Et on parle beaucoup de sa rivalité avec François Mitterrand, mais il en est une autre qui restera dans les annales politiques, celle avec Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre qui aujourd'hui en parle sans détour.
Je me souviens lui avoir rendu visite dans les locaux de la direction de la prévision dans les années 65. Il était secrétaire général du PSU, il était en même temps inspecteur des finances. Et pour moi qui venais de créer le CRS, ce n'était pas du tout un adversaire, loin de là. Nous partagions sur beaucoup de sujets les mêmes opinions. C'est quand il est entré au Parti Socialiste, en 1974, qu'il s'est positionné, je dirais, d'une manière très différente. Il a campé à ce moment-là l'opposition de deux cultures du socialisme, l'une jacobine, l'autre autogestionnaire et décentralisatrice. Et les idées rocardiennes, elles ont pris le pouvoir au Parti Socialiste, déjà sous Mitterrand, et puis ensuite... Je dirais avec Jospin et puis Hollande, hein. Il faut bien dire que, disons que la deuxième gauche a pris le dessus, mais c'était dans l'air du temps, vous savez. Rocard faisait l'apologie du marché à une époque où la croyance en l'efficience du marché était très à la mode, hein. C'était Milton Friedman, l'école de Chicago, etc. C'était beaucoup plus difficile de défendre l'État, le sens de l'État. Donc voilà, c'est un combat honorable. Un combat d'idées qui n'empêchait nullement une relation amicale.
Jean-Pierre Chevènement, interrogé aujourd'hui par Stéphane Robert dans sa dernière interview dans Le Point le 9 juin dernier, Michel Rocard avait fustigé la gauche française la plus rétrograde d'Europe, la jugeant, je cite, « trop imprégnée par la pensée politique marxiste ». L'ancien Premier ministre s'en était également pris dans une interview à François Hollande. Son problème, c'est d'être un enfant des médias. Cet excès de dépendance des politiques aux médias est typique de la pratique mitterrandienne, ajouter un Rocard très critique envers le système médiatique tel qu'il va aujourd'hui, Frédéric Seyss.
Michel Rocard, souvent décrit par ses rivaux en candidat chouchou des médias, n'était pourtant pas tendre à leur égard, ainsi qu'il le confie en 2008 au site Arrêt sur Image.
Il y a une dérive générale de l'information vers le spectacle, parce que le spectacle fait mieux vendre et l'information est plutôt coûteuse et quand elle est stricte, les moins riches en scoop.
Les politiques sont une catégorie de la population harcelée par la pression du temps, insistait-il il y a 10 jours dans une longue interview au Point. Pour Michel Rocard, épris de lecture, avocat du temps long, l'immédiateté de la vie politique était difficile à supporter. À plusieurs reprises, il a fulminé contre la simplification, la caricature de ses propos. Il a d'ailleurs démissionné d'une commission sur le métier d'enseignant en 2008, après la parution dans le Figaro d'une interview qu'il jugeait tronquée. Dans les hommages rendus depuis hier, Michel Rocard Rocard est unanimement décrit comme moderne, cela n'empêchait pas une forme de nostalgie, de rejet du système médiatique actuel. Depuis que l'écran a remplacé l'écrit, tout ce qui est complexe a disparu de nos façons de réfléchir. C'est un suicide de civilisation, dénonçait-il il y a 2 ans dans sa contribution aux états généraux du PS. Le rapport de Michel Rocard aux médias ne fut pourtant pas exempt de paradoxes. C'est ainsi qu'il accepta de répondre à une interview de Thierry Ardisson, incarnation de ce qu'on appelle désormais l'infotainment. Interview dont certaines questions intimes ont fait dire à beaucoup d'observateurs qu'elle avait participé à désacraliser la fonction politique.
Merci beaucoup Frédéric Seyss. Michel Rocard, la singularité en politique, son apport dans la vie des idées et dans l'action publique. Il en sera question donc juste après le journal, jusqu'à 20h sur France Culture. Je vous le rappelle, émission spéciale présentée par Raphaël Bourgois, Frédéric Martel, avec de nombreux invités. Je renvoie aussi au site franceculture.fr, notamment pour écouter 5 entretiens avec Michel Rocard en 2013 dans À Voix Nue. Michel Rocard, par ailleurs, s'était dit favorable au projet de loi travail, une loi qui va dans le bon sens, avait-il dit en mars dernier, une réforme qui n'en finit pas en tout cas d'avoir des conséquences politiques. Le premier secrétaire du PS annonce aujourd'hui le probable report de l'université d'été du Parti Socialiste, qui devait se tenir fin août à Nantes et non plus à La Rochelle, à cause des risques de violence. Les opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en effet, auraient probablement été au rendez-vous, mais aussi les syndicats contre la loi travail, qui avaient annoncé un grand meeting à Nantes au même moment. Ce qui est grave, c'est qu'il s'est constitué dans ce mouvement anti-loi travail une ultra-gauche antidémocratique qui s'est fixée comme objectif de mettre à terre le PS, tant du point de vue de la contestation que de la violence dans l'action, affirme Jean-Christophe Cambadélis. Sachez que demain, dans les matins de France Culture, Olivia Gesbert recevra le patron de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Triste journée quand nos mémoires vivantes s'éteignent, écrivait dès hier soir Manuel Valls pour saluer, après Michel Rocard, la mémoire d'un autre disparu d'hier, Elie Wiesel, l'écrivain juif américain rescapé de la Shoah, prix Nobel de la paix en 1986 et donc décédé à l'âge de 87 ans. Il avait créé la fondation Elie Wiesel pour l'humanité et toute sa vie et son œuvre auront été marquées par sa déportation à Auschwitz où il perdit ses parents et une de ses sœurs. Écoutez l'hommage que lui rend ce soir sur France Culture Marek Alter, qui a beaucoup écrit, vous le savez, sur l'histoire du peuple juif.
C'est quelqu'un qui a vécu, mais peu des gens ont compris ce qu'ils ont vécu. Il y avait lui, il y avait Primo Levi, Cortés, Bettelheim. Mais lui, de ce qu'il a compris, il en a fait une arme. C'est lui qui a forgé l'idée que la mémoire est un moyen de combat. Souviens-toi, comme dit la Bible, 168 fois, et tu seras prêt d'affronter les injustices. C'est ce qu'il a fait. Par sa parole, par ses actions aussi. Il est allé au Cambodge, Darfour. Il s'est engagé pour les Tutsis contre les Hutus qui les massacraient en Afrique du Sud, contre l'apartheid. Il a montré que la mémoire n'est pas là seulement pour l'entretenir comme une fleur, mais elle peut aussi nous faire comprendre les enjeux et nous donner les moyens d'engagement.
Marek Alter, interrogé par Sarah Petitbon. Les funérailles d'Elie Wiesel ont lieu d'ailleurs en ce moment même à New York. Au moins 119 morts, 140 blessés dans l'explosion d'un camion piégé à Bagdad la nuit dernière. Le bilan est terrifiant. L'attentat le plus meurtrier cette année dans la capitale irakienne est revendiqué par l'organisation État islamique. Angélique Ferrat.
Karada est un quartier commerçant de Bagdad, très animé la nuit. Il compte de nombreux magasins et cafés-restaurants. À quelques jours de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, les rues étaient donc forcément bondées. Les musulmans offrent des cadeaux à leurs proches lors de cette célébration. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique, sa façon de montrer qu'après avoir perdu la ville de Fallujah à l'ouest de Bagdad fin juin, Daesh reste capable de nuire dans la capitale irakienne. Les Irakiens, eux, ont marqué leur colère. La voiture du Premier ministre a été caillassé lorsqu'il a tenté de se rendre sur les lieux de l'explosion. Le site internet du ministère de l'Intérieur a même été hacké. Une photo d'un enfant horriblement blessé dans l'explosion a été postée sur le net avec un dessin de détecteur d'explosifs utilisé au barrage de police à Bagdad. Des détecteurs payés très cher par le gouvernement irakien, mais des détecteurs que plusieurs études techniques ont qualifiés de totalement inefficace.
Merci Angélique Ferrat. On rappelle le bilan de cet attentat à Bagdad. Plus de 119 morts, dont de très nombreux enfants. Dans le pays voisin, l'Iran, le gouvernement du président modéré Hassan Rouhani est confronté depuis 2 mois à de très vives critiques. Motif, les Iraniens découvrent avec colère les salaires exorbitants que touchent plusieurs présidents de banques d'État et de la Caisse du développement du pays. Ce qui a conduit d'ailleurs Rouhani à les limoger, Siavosh Ghazi.
Finalement, après plusieurs semaines de pression, le patron de la Caisse du Développement National, le réformateur Seyed Saftar Hosseini, qui avait été nommé par le président Rouhani, et tous ses collaborateurs ont été contraints à la démission. Les médias avaient publié sa fiche de paye de 17 000 dollars, soit plus de 40 fois le salaire de base d'un fonctionnaire. Jeudi déjà, les PDG de 4 banques d'État avaient été limogés. Les réseaux sociaux publient depuis 2 mois des fiches de salaire exorbitants dont les montants dépassent jusqu'à 100 fois le salaire de base d'un fonctionnaire qui est à peine de 400 dollars. Ces fiches de salaire ont provoqué la colère de nombreux Iraniens alors que l'économie ne démarre toujours pas malgré l'accord nucléaire. Après plusieurs semaines d'attentisme, le gouvernement a multiplié les mesures pour tenter de désamorcer le scandale qui est largement exploité par les conservateurs. À moins d'un an de la présidentielle, l'affaire fragilise le président Rouhani qui doit se représenter pour un second mandat. Selon un responsable réformateur, les adversaires du gouvernement ont mis la main sur 3000 fiches de paye de hauts responsables qui vont être publiées au cours des prochains mois pour affaiblir le président Rouhani.
Merci Siavosh Gazi à Téhéran pour France Culture. La chronique économique comme chaque dimanche. Bonsoir Véronique Pellerin.
Bonsoir.
Vous êtes avec Valérie Segond.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Alors vendredi dernier, le plus grand fonds de pension du monde, le GIPF, c'est le fonds qui gère l'épargne retraite des salariés japonais, le GIPF, donc, a annoncé une perte colossale de 5 000 milliards de yens, soit 45 milliards d'euros. Alors comment est-ce que cela est possible? En général, les fonds de pension sont très très prudents dans leur gestion.
Vous avez raison, pour pouvoir servir les retraites auxquelles ils sont engagés, les fonds de pension sont de gros acheteurs d'emprunts d'État qui servent un rendement sûr et régulier. Le problème, c'est qu'avec la politique monétaire de taux zéro, qui a été adoptée dans toutes les grandes économies à la suite de la crise de 2008, les fonds de pension n'arrivent plus à dégager assez de rendement pour verser ces retraites. Car la politique monétaire de taux zéro, c'est une politique qui est en principe favorable aux actifs qui ont besoin d'investir, et c'est tout le pari des banques centrales, mais elle ruine les épargnants. Et au moment où ceux-ci sont de plus en plus nombreux, parce qu'ils sont issus de classes nombreuses et parce qu'ils vivent de plus en plus longtemps, au moment où ils attendent des revenus pour leur retraite, eh bien, cela peut mettre un fonds de pension aussi riche soit-il en grande difficulté, voire en faillite, si ses revenus sont trop bas. On s'y attendait. Il y a un an, l'OCDE, dans un petit rapport, alors passé inaperçu, poser la question, on ne peut plus clairement. Les organismes de retraite et les compagnies d'assurance-vie pourront-ils tenir leurs promesses? Car, disait ce rapport, dans un environnement marqué par des taux d'intérêt bas, cela relève de la gageure. Et voilà, nous y sommes. Cette population vieillissante qui vit de son épargne a besoin que ses placements rapportent. Pour elle, la politique monétaire à taux zéro, ce n'est pas tenable.
Alors conséquence, ces fonds de pension sont incités, voire contraints, à accroître leurs investissements en actions.
Et effectivement, il leur faut de meilleurs rendements, des produits plus rémunérateurs. Le problème, c'est que c'est aussi plus risqué, comme on le voit à chaque retournement de marché, où certains fonds essuient d'un coup des pertes en capital considérables. C'est bien, là, le risque de la retraite par capitalisation.
Et on s'en souvient qu'en France, la droite a soudainement cessé de faire la promotion de cette retraite par capitalisation en 2008-2009, au moment de la crise des subprimes, quand on a vu des retraités américains contraints de reprendre le boulot. Finalement, avec la retraite par répartition, celle qu'on connaît actuellement en France, on est beaucoup mieux protégé.
Mais c'est sûr que les revenus du travail sont plus stables que les revenus du capital. On voit bien, avec l'assurance-vie notamment, que toute la gestion collective a aujourd'hui le plus grand mal à tenir ses promesses quand les marchés baissent. Et il est probable que l'on voit tôt ou tard des fonds américains essuyer eux aussi de lourdes pertes. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Maintenant, à long terme, il n'est pas sûr que les systèmes soient si différents. Le système par répartition, on le sait, repose intégralement sur le salariat. Donc il faut qu'il reste la forme dominante de l'emploi, ce qui, vous le savez, n'est pas assuré dans la durée. Les indépendants ne paieront pas pour les retraites des salariés. Cela dit, il ne faut pas oublier que même dans ce système, on n'échappe pas à la pression démographique, même si elle passe par d'autres tuyaux. Parce que les générations qui arrivent à la retraite, issues de classes nombreuses, ont besoin de plus de cotisations pour financer leurs besoins. Donc, qu'a-t-on fait récemment? La réforme des régimes de retraite complémentaires, AGIRC-ARRCO, d'octobre dernier, avec son système de bonus-malus, pousse les actifs à travailler un an de plus s'ils ne veulent pas perdre 10% de leur pension pendant 2 ou 3 ans. En clair, la pression démographique est tout aussi lourde même si elles passent par d'autres tuyaux. Donc, quel que soit le mode de financement des retraites, que ce soit par des taux élevés sur les emprunts d'État, par un rendement de 15% sur les actions ou par des cotisations élevées sur les salaires des actifs, peu importe, la pression démographique est toujours là. Le vrai problème de l'équilibre, c'est le vieillissement. In fine, le mode de financement n'est qu'une question de tuyauterie.
Merci beaucoup Valérie Segond, merci à vous également Véronique Pellerin. La météo, pas de pluie demain, à part dans la matinée en Lorraine et Champagne-Ardenne. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va prédominer globalement malgré des grisailles le matin au nord. Température dans la matinée, 15 degrés dans le Cotentin, jusqu'à 28 à Montpellier. Grand merci à Brice Garcia pour son aide.